Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 7 février 2009. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, de retour de Charente, voici le programme dessiné que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Bah ça, c'est pas tout, mais je vais pas tout vous spoiler. Hein.
Non. Fais pas le genre de la maison.
Mais justement, parce que ça sort en février.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, nous sommes de retour dans nos pénates. Bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Bonjour Xavier, oui, très bien, de retour dans les Charentaises.
De retour dans les Charentaises, on a été accueillis, mais alors vraiment d'une manière comme chaque année, quoi. Ils ont le sens de l'accueil. Pour ceux qui ont loupé donc l'épisode précédent, nous étions en direct du Conseil Général de la Charente avec le Conseil Général des Jeunes, plus, 4 de leurs représentants qui en fait étaient membres du prix ActuABD Conseil Général de la Charente et qui ont donc annoncé en direct la semaine dernière leur prix. Ça nous a fait plaisir d'abord d'avoir été accueillis, de la confiance que nous a accordé nos partenaires d'ActuABD bien évidemment, mais surtout le Conseil Général de la Charente pour cette expérience. Ces jeunes, bon, c'était la première fois qu'ils faisaient la radio quand même, on a oublié de le signaler, et ils étaient vraiment à l'aise, ils ont su s'exprimer en des termes clairs, en des mots simples, expliquer pourquoi ils avaient choisi cet album plutôt qu'un autre, et de ce côté-là, voilà quoi, c'était vraiment du bonheur, vraiment. Il y avait aussi l'équipe d'ActuABD qui était rédactrice en chef invitée donc du festival, qui a donc donné ses impressions à chaud sur le festival. Ça permettait un peu de dénoter, je veux dire, du programme des dépêches habituelles que fait ActuABD, puisque c'est quand même un site internet d'information qui s'intéresse principalement à une actualité professionnelle qui est lue par des professionnels, dans lequel dans les forums on dit qu'Albert Uderzo aurait allumé Nick Rodwell. En fait, c'était pas Albert Uderzo, ça a été l'objet d'une superbe gaffe justement du gestionnaire des droits concernant l'œuvre d'Hergé. Mais il n'y a pas je vais dire des pros hein, qui le lisent, il y a aussi le grand public. Vous avez été plusieurs milliers à avoir lu cette brève et à avoir écouté notre émission. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été, j'ai été trahi par ma propre technique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est pour ça qu'on m'entendait un peu mal au bout d'un moment.
Oui, trahi. T'as pas attendu d'être Angoulême pour être trahi par ta technique ici aussi. Hein. Donc on a fait du... dans le... On a été constant, quoi.
Voilà, exactement. En tout cas, ça a vraiment été un bonheur. Donc, pour rappel, donc le Conseil Général de la Charente, les 4 jeunes qui étaient membres du jeu, je me souviens plus des prénoms d'ailleurs.
Baptiste, Hortense, Astrid et Guillaume.
Voilà, qui se sont montrés plutôt brillants hein, pour leur première prise de micro sur un média. Ils ont donc élu le Grand-Duc de Yann et Hugo comme étant le prix ActuABD Conseil Général des Jeunes, et ils ont décerné un prix coup de cœur à Moutafoukaz de Rennes, et on leur a fait une surprise puisque les auteurs ont débarqué dans les 5 minutes. Ils nous ont
peut-être pas dans les 5 minutes, mais en tout cas très vite.
En tout cas extrêmement vite, et donc ça nous a permis de mettre, je vais dire, ces jeunes élus face aux conséquences politiques de leurs actes immédiatement, et donc les auteurs ont bien voulu se déplacer. C'était d'abord très chaleureux de leur part, très amical, et surtout du coup ça a permis à ces jeunes de rencontrer donc ces auteurs qu'ils ont récompensés
et de leur expliquer en quoi leurs albums les avaient touchés et pourquoi ils leur avaient remis un prix.
Voilà.
Ce qui a fortement touché les deux auteurs d'ailleurs.
Du coup il me manquait le master du sonore de la semaine dernière, parce que j'aurais aimé prendre comme extrait le moment où Ron dit ah bah il va falloir que je songe à changer le titre. Ah. Ouais, c'était assez rigolo. C'était une émission qui était un petit peu lourde quand même à préparer, puisque du coup ça nous a bloqué les trois quarts du samedi. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. En même temps, c'est vrai que je faisais ma propre tambouille. Moi, j'avais une activité professionnelle que j'ai abandonnée pour le festival, mais quand même, je bossais 2 heures par jour là-dessus. Donc on n'a pas pu faire autant d'interviews que l'on a voulu. Néanmoins, pour nous, c'est eu tout bon, puisqu'on a eu comme interview, on a eu Daniel Maguin, qui est un galeriste spécialisé dans les planches originales de bande dessinée, qui est devenu éditeur. Yffrey Mion, qui est un essayiste humoriste devenu élu politique, encore tout vert malgré son âge, tout en écrivant dans Flic Glacial, et Milo Manara, donc que l'on parlera courant février, normalement la semaine prochaine, pour sa série avec Jodorowsky sur la dynastie des Borgia. Plus donc la coloriste de... Mince.
La coloriste de Altadonna, Pop.
Voilà, Pop, qui va expliquer un petit peu ce qu'est son métier, comment justement elle a fait les affres de la production autour de cet album. Vous verrez, c'est plutôt intéressant justement, parce que c'est vrai que les coloristes en général,
on les entend pas.
D'ailleurs, même dans les fiches du supplément week-end, on n'annonce pas systématiquement qui colorise les albums. Et ben derrière, il y a quand même un sacré métier. C'est lui qui met en valeur ou non le travail du dessinateur. Plus aussi, ouais, il nous reste des interviews de l'an dernier, au moins Mézières et Christin.
Mézières et Christin, l'interview qu'on avait faite l'an dernier au festival de la bande dessinée, plus une autre interview que nous avions enregistrée à la Japan Expo, du gars qui a fait le petit logo qui est sur ton suite, qui s'appelle Terratag et qui a fait le logo donc du rieur dans la série Ghost in the Shell.
Voilà, mais là on est
et
plus,
pas que.
On est plus autour du manga, et là aussi ce sera donc là-dessus qu'on va travailler autour. On verra ça, vous verrez. On reste une émission riche, et normalement on a 2 invités qui devraient débarquer. Déjà là, maintenant, de suite. FMR 89.1 MHz, donc c'est le supplément week-end numéro 187. Et donc, et ben, on va pas parler que du festival d'Angoulême, puisque il se trouve que à Toulouse, on en a parlé depuis environ un mois, il y a le festival Made in Asia. Et donc, il y a Sébastien Langevin qui est venu nous voir pour nous parler de la manga.
De la manga, oui.
Voilà, c'est le gag habituel. Et en plus, Il est venu fort amicalement avec, mais en plus c'est ça que j'adore, tu vois, sur les produits japonais, c'est sur le packaging. Il y a des trucs, il y a un truc notamment que j'arrive pas à trouver, c'est la liqueur de lait. Je ne sais pas si tu la trouves, et c'est présenté dans les petites bouteilles. C'est super ça pour mettre dans les cocktails.
Je vais mettre là, moi.
Donc voilà, là on est en train de décapsuler tout ça. Juste après, t'inquiète, l'émission.
Il faut dégazer d'abord, on m'a dit. Il faut vraiment dégazer, sinon on en met partout.
D'accord, bah.
Je te regarde, Xavier. vous pouvez pas voir, mais je vous raconterai s'il y a un truc qui se passe.
Oui, je suis désolé pour tous ceux qui ne paient pas la redevance couleur. Ceci dit, donc lors du festival d'Angoulême. Ça a été épique quand même l'installation cette année. Primo, pour ceux qui connaissent la ville d'Angoulême, le Champ de Mars a été en travaux pendant 2 ans et demi. Ils ont refait la place, ils ont fait, on peut dire que ça ressemble un peu à ce qu'est, je vais dire, la place Occitane à Toulouse. Donc c'est un centre commercial et dessous un parking et dessus une grande dalle avec des restos. Et c'est là sur lequel ils installent maintenant donc les bulles. Le problème, c'est qu'il y a eu du gel et on s'est rendu compte que cette superbe surface en marbre, eh bien, elle est parfaitement verglacée. Voilà, c'est pas du marbre, excuse-moi, c'est du granit. Et elle était parfaitement verglacée. Donc je vous laisse imaginer le gag. Je prépare le suivant d'ailleurs. Celui-là pour ouvrir le truc. Et oui, non mais merci les enfants.
Le gag radiophonique par excellence.
Voilà. Ah d'accord. Ok. Ok. On démonte comme ça.
Putain.
Il en a mis partout. Attention, je vais essayer.
Ça va.
Ouais. Ça mousse. Faut que ça mousse.
Faut que ça mousse, voilà.
Grande matinée mousse ce matin sur voilà, FMR.
Ça change.
Allez,
Sébastien.
Ah, il est mousse.
Sébastien a réussi à en mettre partout. Thomas en a mis le moins. Et du sport, à mon avis, lui, il est sage. Il laisse la chose reposer. Bref, il y avait donc le verglas qui a rendu difficile la construction des tentes. Ensuite, il y a eu, comme qui dirait, un léger coup de vent. Avec une alerte niveau 3 quand même, qui a failli emporter les tentes. Donc ils ont dû retarder la pose de la voilure. Et en même temps, ça a retardé d'autant, eh ben, je dirais, la construction des stands des éditeurs. Et d'un autre côté, il y avait bien évidemment les manifs du mouvement social de jeudi, le 29 janvier étant une journée de grève nationale pour contrer notre cher et bien-aimé omniprésident, quoi qu'en dise l'émission d'avant, qui aurait pu sabrer le festival. On se souvient qu'il y a eu quand même 2 éditions sur 10 ans qui ont failli être complètement coulées à cause de la grève de la SNCF. Là, 40% des trains ont bougé, il y avait quand même encore pas mal de perturbations, mais néanmoins, eh ben, ça a pu avoir lieu, je vais dire, sans trop de problèmes. C'est-à-dire que la plupart des trains sont arrivés, dont le fameux train des Belges qui arrive le jeudi matin. Par contre, totale incompréhension quant à l'organisation de la remise des prix qui a eu lieu dimanche à 16h, incompréhension totale de tout le monde. Primo, ben justement, la plupart des auteurs qui, eux, n'étaient pas au courant, surtout qu'on a tous reçu un mail une semaine avant de l'organisation avec marqué « Rappel ». Remise des prix et annonce du grand prix le dimanche à 16h. Problème. On va prendre une analyse relativement simple. J'ai fait le tour de mes amis confrères de la CBD et journalistes de la presse écrite quotidienne régionale. À savoir, j'ai demandé au Midi Libre et au Progrès de Lyon comment ils allaient faire. C'est très simple. Ils n'avaient pas prévu de place pour parler du festival lundi. C'est-à-dire que tout simplement, tout ce qui concernait le palmarès, sauf si un auteur était vraiment de la région, passait complètement à l'as. L'autre problème, bien évidemment, c'est, exception du Figaro, mais là on va en parler tout à l'heure, c'est à propos de l'affaire Goscinny, qui eux avaient réservé une large place à la BD puisqu'ils étaient en pleine enquête. D'ailleurs, on était dans le Figaro du samedi, ouais. Je suis content.
Oui, non, c'est pas vrai, parce que c'était un certain Xavier Mouton du Bost.
Mince, Olivier Delcroix, je le promets, je vais le massacrer. Donc c'est le journaliste du Figaro, voilà. Accessoirement, il n'y avait pas que ça, finalement, qui aurait pu vraiment sabrer le festival. C'est plutôt ce qui aurait pu sabrer l'esprit du festival. Que dire ? Bizarrement, cette présidence bicéphale n'a pas donné plus de présence que les précédents présidents. Moi, je me souviens quand même des présidents qui ont amené énormément de choses. Il y avait le tout premier à laquelle j'y étais allé avec Villemain. qui était absolument grandiose parce qu'il avait décrété match de foot avec les auteurs, les concerts et tout le reste. Il y a eu surtout Book.
François Book, moi c'était ma première aussi. Ou ma deuxième édition et c'est clair, toute la ville était pavoisée, on avait des sacs zèbres en bandoulière.
Il y avait des grands manteaux aussi qu'ils ont vendus super cher. Hein. Il y avait quand même une idée de merchandising, mais Book est venu avec toute l'organisation du carnaval de Lille, qu'il connaît très bien. Ils ont transformé une rue entière dans le délire de son univers. C'est-à-dire, on a vu des coccinelles s'accoupler. Quand je parle de coccinelles, c'était des voitures. Ou encore des téléviseurs qui hurlaient des cris de monstres en plein dans la rue. C'était absolument génial. C'est-à-dire, il y avait vraiment quelque chose en dehors du festival. Des trucs un peu gratuits. Il y avait ce qu'amenait Lewis Trondheim avec la mascotte. Il y a eu ce qu'avait amené, la scénographie autour de Skutton sur tout le théâtre.
Skeuton,
oui. Oui, on parlera tout à l'heure de Peters. Il y avait aussi les concerts de dessin. Là, cette année, pour Dupuis et Berberian, à part, bien évidemment, l'organisation du... pas l'organisation, mais il y a bien évidemment l'exposition des présidents. Il n'y avait rien d'autre. On avait deux présidents pour le prix d'un. On les a pas vraiment vus. Alors, pourquoi ? Moi, j'ai une théorie.
Attention.
La théorie est un peu la même que celle de la nette réduction de la surface des stands des grands éditeurs. La crise, plus exactement. Pas la crise, pas uniquement la crise financière, mais il se trouve que l'organisation du festival, qui est une association, a délégué la tenue des bulles à une entreprise pour 10 ans, qui s'appelle 9e Art Plus, et que celle-ci semble avoir augmenté le prix de location du mètre carré. Mais d'un autre côté, n'a pas... Franchement, organiser des trucs, pas forcément borderline, mais quelque chose de vraiment éclatant autour du festival. Ça explique aussi pourquoi les fanzines étaient très nettement moins présentes les années précédentes. L'espace fanzine était tout au fond de la bulle New York, il restait qu'une dizaine de stands, et on peut pas parler de fanzine à ce stade, mais plutôt de prozine, parce que c'était vraiment des productions de très haute qualité. À vrai dire, moi, l'espace fanzine, je m'en suis rendu compte qu'à une chose, à l'odeur de la bière, et j'ai même pas vu une seule canette. Tous les stands étaient propres. Donc, je me suis posé des questions. À partir de là, la réduction de l'espace fanzine, c'est quand même une perte de diversité, parce que c'est quand même là qu'on a découvert Vanida, c'est là où j'avais fait l'interview pour son immeuble d'en face, et à l'époque, elle auto-éditait ça quasiment. Il y avait Vinschluss aussi qui a débuté là-bas avec les requins marteaux. Et bien d'autres, qu'est-ce qui va rester si ça devient beaucoup trop professionnel et beaucoup trop commercial ? Moi, je n'ai pas... je sais pas, Sébastien, peut-être que tu as un avis. Ça me permettra de changer le fond sonore.
Un avis avec un peu le même constat, notamment sur cette remise des prix qui vient clôturer vraiment totalement le festival. Je vais parler un petit peu en tant que... organisateur, même si je suis un petit organisateur d'un petit espace, hein.
Mais
et
justement,
une petite salle dans un petit espace. Donc,
ton avis est bienvenu, justement.
C'est vraiment,
pour
vraiment pas grand chose. Je suis un tout petit, les gens d'en haut me connaissent pas et je les connais pas bien. Mais, c'est vrai que cette remise des prix en queue de festival entre soi, en plus, entre gens de la BD, sans personne d'extérieur, c'était
ça a toujours été le cas, hein.
Plus ou moins. Là, c'était plus que d'habitude, hein, quand même, sur invitation, etc. Eh ben, ça fait pas un festival populaire. C'est pas comme quand on crie le nom du futur président par le balcon
de la terrasse de la mairie,
avec un côté festif. On le dit à tout le monde et c'est plutôt sympa.
Donc un nouveau roi a été proclamé. C'est ça qui était fun, quoi, vraiment.
Exactement. Un peu l'impression que le festival est plutôt content d'être entre les gens du festival sont contents d'être entre eux. Ça marche bien. Il y a du monde. La bande dessinée, elle se porte plutôt bien. Tout le monde se porte plutôt bien. On est un peu dans l'autosatisfaction. On a casé le manga et les gens un peu bizarroïdes dans leur building. Donc ils sont entre eux dans leur boîte à rire. Et puis ma foi, ça se passe bien.
Je te rappelle que t'as soutenu en plus le fait qu'il n'y ait plus justement qu'il n'y ait plus de cosplay, qu'il n'y ait plus d'événements autour, quoi.
J'ai soutenu. Du moins, je comprends la démarche. Oui, tout à fait. On est dans un festival.
Ouais,
c'est pas Japan Expo. Clairement, c'est un festival. Mm-hmm. Il se propose d'apporter une plus-value culturelle. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça a été fait encore une nouvelle fois cette année. notamment bien sûr grâce à Julien hein, qui est le grand Manitou du Manga Building, Julien Bastide, Nathalie Bougon aussi qui est à côté de lui,
qui font un très très bon boulot,
qui font un super boulot, et je pense que justement la plus-value culturelle elle est là. Bon, en tout cas voilà, et le festival est, me semble très content de lui. C'est peut-être inquiétant, peut-être qu'il y a des questions à se poser, notamment comparer. Je vais encore parler pour ma chapelle, c'est-à-dire le Manga Building. Comparer la moyenne d'âge d'entre les bulles en général et la moyenne d'âge au Manga Building. Ça va bien pour l'instant. Faut penser à demain. Et puis ma foi, cette bande dessinée japonaise, elle est peut-être pas pire. Et ce qu'on a proposé au Manga Building, c'était peut-être pas pire. C'était trois expositions de belle qualité, je crois. Chacune dans leur genre, très différente. Moi, pour ma part, dans la salle Méliès, petite salle de 50 personnes, c'était très bien, on était au chaud. Il y a eu deux rencontres entre des auteurs, donc Renji Murata avec Olivier Vatine, d'une part, d'autre part, Hiroshi Hirata avec Franck Giroux. Donc, dans le premier cas, on a parlé de BD, de science-fiction, de design, comment on fait des vélos et tout ça. Dans l'autre, on a parlé de bande dessinée.
C'était Murata, ça.
Ça, c'était Murata.
Ouais, c'est Murata, il faut le rappeler, c'est l'un des animateurs de la revue Robot, qui est une revue d'excellente qualité et plutôt artistique hein, au Japon, ce qui est plutôt peu connu d'ailleurs en France, ce côté-là. C'était d'ailleurs assez exceptionnel. Et les démonstrations qu'il a fait.
Et Hirata, il vous a parlé des projecteurs cinéma ou s'il paraît que sa grande passion c'est de retaper les projecteurs cinéma.
Il a dit Hirata, c'était quand même, il y a eu un grand moment dans la rencontre Hirata Giroux, c'est quand Hirata a dit moi en fait ce que j'aurais aimé c'est être ingénieur électricien et pendant mon temps libre je m'amuse à monter des systèmes électriques, des circuits électriques et tout ça. Et moi j'avais envie de lui dire, je lui ai pas dit, mais il y a pas mal d'ingénieurs électriciens qui aimeraient bien faire de la BD, je pense. On voit plus ça, mais voilà, c'était assez chouette. Mm. Ce qu'on a essayé de faire clairement avec Julien sur ces rencontres, c'est justement une vraie rencontre, un double titre, une rencontre entre un auteur français, un auteur japonais, et une rencontre entre ces deux auteurs et le public. Je pense qu'on a réussi, on crée des liens, on voit qu'il y a des liens, c'est très différent. En même temps, ils discutent, ils ont des choses à dire. Franck Giroux est un auteur vraiment reconnu, un grand scénariste de la bande dessinée avec des références historiques très solides. Olivier Vatine est une référence de la bande dessinée épique et science-fictionnesque.
Oui, d'ailleurs, c'est amusant parce que Franck Giroux, lui, il a vécu 2 ans au Brésil. Vatine, actuellement, je crois qu'il avait vécu aux États-Unis et actuellement, je ne suis pas
sûr. C'est la Chine en ce moment.
Il
vit en Chine, il fait beaucoup.
Voilà, sont des auteurs qui justement se sont délocalisés entre guillemets, justement, qui sont assez ouverts.
C'était l'idée aussi. Bon, ouais. Donc voilà. Donc on a fait ça. Il y a eu des séances de dédicaces. Il y a eu des projections, en veux-tu, en voilà. Il y a eu l'avant-première de Ponyo sur la falaise, le nouveau Miyazaki avec trois mois d'avance. Voilà, on a fait ça au Manga Building. Après, le Manga Building n'a pas été cité à la remise des prix. Tous les participants en rencontre internationale ont été cités à un, sauf Hiroshi Hirata. Bon, c'est un peu, j'ai l'impression, et je parle de ça parce que voilà, moi je le vois de mon, je vois de ma crèmerie quoi. Mais c'est peut-être symptomatique aussi d'un certain esprit au niveau du festival. Il faut pas se renfermer, il faut que le festival y s'ouvre, il faut qu'il vous regarde l'avenir. Et même si ça marche bien, peut-être, ouais.
Oui. On peut citer tes propos sur Actua BD.
Ma foi, ouais, il n'engage que moi, mais
Oui. Moi j'avais un avis perso justement sur la venue d'Hirata sur le podium pour remettre le prix. Vu les BD qu'il fait, l'expo qu'il avait sur lui, on voit que c'est pas un manchot. Quand on voit le fou rire général, alors qu'il est habillé en costume traditionnel, c'était limite déplacé quand même. Donc en tout cas, il l'a bien rendu dans son intervention au micro, parce que c'était vraiment, il a bien rendu l'appareil au public, c'était pas mal.
En plus, monsieur Hirata, c'est vraiment un grand monsieur.
Sur les ronds-points, voilà, il faut expliquer ce qu'il avait dit. Donc Thomas était présent, donc
déjà, il monte sur la scène devant le.
En tenue traditionnelle de samouraï.
Voilà, devant le fou rire général. Et quand on lui demande ce qu'il retiendra de ce festival, il a très fortement apprécié la cohabitation entre les piétons. Les véhicules, il a particulièrement apprécié les ronds-points.
D'accord. Donc, je pense qu'il y a un fond de sagesse asiatique qui a dû passer au-dessus de la tête de pas mal des mauvais rieurs, des gentils rieurs. Voilà, je pense que moi j'étais même pas au courant de de ces trucs-là. Je suis un petit peu en colère du coup encore plus, mais c'est pas grave. Parce que c'est quand même un immense auteur. Il y a juste à voir ses planches quoi, qui étaient exposées. C'était des planches originales. qu'on s'en prenait juste plein la gueule pour pas un rond, pour reprendre le nom d'une maison d'édition. De bande
oui, dessinée. PPLG, PPUR, PURR, voilà. Il n'y avait pas que ça au festival, il y avait bien évidemment les bruits qui broussaient, notamment sur la bande dessinée franco-belge en général, et même franco-française, à savoir, au village d'Astérix, c'était la Zizanie. Et Olivier Delcroix a repris les papiers, notamment rédigés par Didier Passamonique sur actuabd.com, concernant ben les bis-bis, hein, on va dire, entre Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, et sa fille Sylvie, qui était directrice de sa maison d'édition, puisque il a récupéré l'ensemble des droits de sa BD et qu'il a limogé. Alors la fille du dessinateur a hurlé au kidnapping dans le journal Le Monde. Après avoir été viré, Albert Uderzo a répliqué.
Il a déclaré entré en résistance, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Mardi dernier, donc après le festival, dans Le Figaro. C'est marrant là, c'est l'opposition entre les journaux. Albert Uderzo répliquait avec des termes non moins gentils envers son gendre, donc le mari de sa fille, l'accusant d'avoir notamment vendu la couverture de La Rose et le Glaive. Quel nom prédestiné
qui lui avait offert pour son mariage d'ailleurs.
Oui, tout à fait, c'était le cadeau de mariage d'Albert. Tu peux y aller. Sachant que donc c'était toute la question de savoir est-ce que Astérix, oui ou non, a le droit de survivre à son auteur. Et Uderzo, qui au départ était dans la même idée que Hergé, qui l'a côtoyé notamment, s'est dit non, finalement c'est à la fois égoïste et à la fois ben malsain. L'ennui, c'est quand on a vu les dernières Astérix, notamment Le Ciel lui est tombé sur la tête, et c'est ce qu'il a reproché à son gendre, c'est de ne pas avoir présenté l'album aux journalistes. Comme quoi il a eu la plus grande honte de sa vie. D'un autre côté, on se dit que le genre lui a un petit peu sauvé, quoi.
Oui, en même temps, est-ce qu'il fallait vraiment le montrer aux journalistes?
Moi, je me suis un petit peu posé la question de savoir lequel a sauvé l'autre. Mais enfin, bon, le résultat, c'est que le poisson s'emballe dans les journaux et que les poissons, eh ben, ils sont sortis des journaux et qu'ils se les balancent les uns à la gueule. On se croirait dans la bonne vieille Zizanie. C'était un petit peu triste. Réponse devant les tribunaux, normalement je crois que c'est courant mars, donc ça va se décider. Ce sera juste à ce temps pour le salon du livre, on verra si oui ou non il y aura un stand Albert René Édition. Mais ça c'est pour ceux qui sont sur Paris, nous on n'y est pas. Accessoirement, on va peut-être... Bon attendez, on va parler du palmarès juste après une petite coupure musicale. We'll be right back. on continue de discuter, boire nos bières à l'eau sucrée, voilà. Avec la jolie petite bille, c'est assez rigolo. Sébastien Langevin dira tout à l'heure où c'est qu'on peut se trouver ça sur Toulouse. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver deux marques concurrentes qui font la même chose, parce que sinon c'est la publicité clandestine. Alors bonne chance. Non, je parle de l'endroit.
Ah, oui, pas de bière. D'accord. Ouais,
voilà. On peut boire sans modération, donc même du sport s'y est mis, c'est dire. Accessoirement, le palmarès du prix, le palmarès officiel du 36e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, à savoir Les Essentiels, Lulu Femme Nue d'Étienne Davodeau chez Futuropolis, Martha Jane Canary de Blanchin et Périssin chez Futuropolis, Le Petit Christian tome 2 de Blutch chez l'association, Spirou le journal d'un ingénu de Émile Bravo chez Dupuis, Tamara Drou de Posse Simmons chez De Noël Graphique et qui a aussi le prix de la CBD, donc normalement je dois j'en parlerai en cours d'année, donc d'ici la fin du mois. Ça, ce sont donc, c'est le paquet de prix entre guillemets, c'est-à-dire on ne fait plus meilleur scénario, meilleur scénariste, meilleur coloriste, meilleure bande dessinée pour enfants avec dessin réaliste et tout le reste. On récompense un
rôle.
Album. On récompense un album pour son
les décors
ensemble.
De Gérard Cardwell.
Voilà.
Les costumes.
Les costumes, pardon.
L'essentiel Révélation est allé au goût du chlore de Bastien Vivès chez Casterman. L'essentiel Patrimoine, Opération Mort de Shigeru Mizuki chez Cornelius, qu'il avait déjà eu pour Nononba.
C'est bête.
C'est... Oui, comme tu dis, c'est vrai que tout le monde a dit, mais pourquoi le lui redonner, enfin?
Je ne sais pas.
Alors, enfin, il y a 5000 nouveautés. Très bien, d'accord. Ok, tant mieux qu'ils soient enfin reconnus en France depuis le temps. Mais si c'est pour se foutre de sa gueule pendant.
Et c'est un peu dommage aussi, c'est que pendant la remise des prix, le festival n'a pas été capable de dire qu'il y avait quand même une exposition oui. Shigeru Mizuki dans le manga building qui était plutôt pas mal. Et c'est dommage de. Bon, je trouve aussi de donner deux fois le même prix à un même auteur. Enfin, un prix à un
oui,
même auteur.
Oui, on est d'accord.
À deux ans de différence, c'est un peu embêtant. Et embêtant non, mais étonnant. Et c'est dommage de pas faire référence à cette une auto-référence. Le festival devrait se féliciter d'avoir fait ce travail sur de vraiment patrimonial pour le coup aussi sur Shigeru Mizuki. Bon,
on parlera tout à l'heure des nouveaux auteurs de la bande dessinée française qui sont déjà des fossoyeurs dans ce cas-là. Non, pas ça, pas sur la gueule. Non, merci, pas taper. L'essentiel jeunesse est allé au Petit Prince de Johann Sfar. Sfar qui a eu un prix exceptionnel donc du festival. Le prix de la bande dessinée alternative est allé à DMPP. Et l'essentiel Fnac SNCF qui a un peu un prix du jury est allé à Mon Gras et Moi de Galice.
C'est du public, hein. C'est du public. C'est oui. Le public qui vote.
C'est le public qui vote. Ouais. C'est assez étonnant, mais bon, c'est vrai que la sélection était assez restreinte. Et le Fauve d'Or, le prix du meilleur album, est allé à Pinocchio de Vinschluss. Chez les requins marteau. Là aussi, c'est un mec qui a été connu par les fanzines et que l'on connaît sous un autre nom, Thomas.
Vincent Paronneau, co-réalisateur de Persepolis, avec Margin Satrapi.
Alors, de là à dire qu'il y a du copinage, non, on va pas aller.
Non, mais c'est juste que Margin Satrapi lui a remis le prix.
Ah, mon réalisateur, c'est trop, c'est pas un César, mais
non,
c'est
c'était
tout
assez
presque.
Amusant parce que quand elle a vu le nom, elle a dit ah, mais oui, mais c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est oui.
C'était pas mal. Et qui c'est qui a. Dans la foulée était annoncé Grand Prix de la ville d'Angoulême et par la même présidente de la 37e édition qui est et sera Blutch, à savoir Christian Inker, selon nos amis des renseignements généraux, âgé de 42 ans, dessinateur, né à Strasbourg, a fréquenté l'école des Beaux-Arts qui est l'une des meilleures en France de réputation et qui s'intéresse à la bande dessinée. Puisque c'est là que viennent bien d'autres dessinateurs beaucoup plus jeunes.
Celle de Mulhouse est pas mal aussi.
De quoi
de l'école Mulhouse. Des Beaux-Arts de Mulhouse est pas mal aussi.
D'accord.
Il est devenu professionnel en gagnant le prix Fluid Glacial en 1988 où il a publié Wild Oats Bar, puis ensuite Sunny Moon qui continuera sa carrière chez l'association et aussi chez Cornelius. Il se fera connaître surtout avec Le Petit Christian dont le deuxième tome a été prépublié cet été dans Charlie Hebdo et a été récompensé par un essentiel. Et son exorcisant Blotch, c'est une espèce d'antithèse sourde de lui-même, représentant du bon goût français. Et pour noircir le tableau, a réalisé l'un des cours de l'omnibus, Peur du Noir.
Ce qui est assez rigolo, c'est que quand l'omnibus était encore au stade de production, avait été présenté à Angoulême, Dupuis et Berberian en faisaient encore partie. Donc ça fait deuxième année de suite où des dessinateurs sont attachés à ce projet. C'est
alors... Entre soi.
Alors justement, je vais y arriver. Adepte du grand écart entre son travail sur la série Donjon, d'un certain Svar et Trondheim et son travail d'illustrateur de presse, Blutch manie surtout l'encre avec un dessin qui est, je vais dire, c'est pas brouillon mais c'est pas définitif, c'est un truc qui est justement un petit peu tremblé. C'est là-dessus où il n'a pas une netteté quoi dans le trait, c'est ça qui donne le supplément d'âme. Mais il fait partie surtout de la vague de dessinateurs arrivés dans les années 90, comme Johan Svar, Lewis Trondheim, Dupuis et Berberian. De là à dire qu'il a été coopté par tous ses anciens présidents à ce poste, c'est à se poser des questions. Est-ce que vous savez
Non, Svar a jamais été
non
pris, hein. Il a
eu un prix spécial décerné par les organisateurs, à l'époque où Moliterni d'ailleurs était encore vivant. Mais quand même, dans le lot, ça fait encore un blanc français. Il y a eu 4 Belges, en tout et pour tout, qui ont eu le prix. 2 Américains, un Suisse, un Argentin.
Et 20 Japonais. Pardon, excusez-moi. Je me trompe de prix.
Mais oui, mais justement, t'as raison, Sébastien. Mais moi, ça me débecte toujours. C'est un festival international. Mais le fait qu'ils se cooptent entre eux, ça se demandait si ça se limite pas quand même, sérieusement. Bonne question.
No comment.
Ouais, comme on dit. Enfin bon, ceci dit, on va parler.
En tout cas, c'était quand il est venu sur scène, c'était assez rigolo puisqu'il nous a, il s'est fendu. La première phrase, c'était "Je vous ai compris."
C'était donc Didier Passamonique qui disait en privé :« Sont les fossoyeurs de la nouvelle bande dessinée française. » C'est dire quand même si un c'est vache et puis que deux, ben justement. Il manque des auteurs un petit peu plus jeunes et récents, comme Unuera, comme Boulet, comme tous les autres. Le dernier
ils arrivent,
jeune.
Ils arrivent.
Le dernier jeune, c'était qui? C'était Zep, finalement.
Qu'est-ce qu'on appelle jeune?
Je veux dire, Lewis Trondheim, déjà, il est vieux.
Bah, depuis Barbarian, ils sont pas vieux?
Non. Bon, faut pas cracher dans la soupe. Je pense que ce qu'on appelait la nouvelle bande dessinée française, effectivement, maintenant, elle est installée, elle a pris le pouvoir entre guillemets, ça fait pas si longtemps en vrai, donc qu'ils en profitent, qu'ils nous régalent parce que moi j'étais parmi les premiers à célébrer Lewis, à célébrer Johan parce que c'était un vrai coup de frais sur la BD sur la BD franco-belge depuis Largo. Donc ne faisons pas la fine bouche, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, qu'ils le fassent bien. Je pense qu'ils peuvent en profiter encore un petit moment et nous en faire profiter surtout et au public pendant un petit moment. La nouvelle génération, elle monte, hein, les Boulets. Mmh. Derrière, il y a du Maliki, des choses comme ça qui sont très populaires mais qui sont pas du tout reconnues. Nous, on a accueilli Maliki au Manga Building. Je pense que c'est plus l'endroit et on était très très contents. C'est plus l'endroit. Pour revenir quand même sur le côté international, Feu le virus manga, on avait fait un article
rédactisé en chef par Sébastien qui est juste en face de nous.
Non, je me présente, je m'appelle Stéphane.
Stéphane Langevin.
Attends, mais c'est pas vrai. Tu fous le dawa dans la tête là.
Je m'appelle Stéphane. Et donc, c'est vrai que je disais que peut-être que les anciens grands prix, ils pourraient regarder un petit peu du côté du soleil levant, que le soleil et les planches n'y brûlent pas plus qu'ailleurs, parce que il y a certainement un ou deux auteurs. Et par exemple, mais j'ai l'impression de prêcher pour ma chapelle et d'être un intégriste du manga contre la BD franco-belge, qui est pas du tout le cas en vrai dans la vraie vie et tout ça, mais par exemple monsieur Urasawa Naoki, grand prix, ça serait quelque chose, ça serait une vraie bombe, ça serait vraiment là le festival gagnerait en international. Mais je parle de Urasawa, je pense qu'il y en aurait un ou deux
donc l'auteur de Monster, c'est ça,
auteur de Monster, 20th Century Boys, plutôt à venir. C'est un immense auteur de BD, immense, un grand public en même temps et grand auteur de BD. Voilà, ça serait juste chapeau. Mais il y en a, c'est pas un manchot, même s'il est un peu mal au bras, il paraît. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Moi, je suis particulièrement amateur de cet auteur, mais oui, pourquoi pas. Mais alors, il va falloir, je pense, attendre que, effectivement, la nouvelle BD, parce que les Svarl et tout ça, ils en lisent du manga, ils connaissent, évidemment, ils lisent de la bande dessinée japonaise. Impossible de ne pas lire de BD franco-belge si on est auteur de bande dessinée à l'heure actuelle, je pense.
Et puis Murata lui-même avait dit qu'il lisait du Skuten et Cité Obscure, qu'il a lu du Moebius, donc
comme il est impossible de pas lire de comics, etc. C'est comme en cinéma, un réalisateur, est-ce qu'il dit moi je regarde pas de films américains, aucun, j'en ai jamais regardé un. Non, c'est impossible de dire ça. Donc c'est exactement pareil pour le manga. Donc ça, peut-être que ça viendra.
pendant ce temps-là, excusez-moi, je me trompe de bouquin. Alors, si vous voulez un résumé de l'œuvre de Dupuis et Berberian, 9e art, qui est la revue du CIBDI, puisque maintenant c'est la Cité Internationale de la Bande Dessinée de l'Image, est sorti depuis 2 semaines. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus coédité par les éditions de l'An 2, c'est que le CIBDI qui l'édite. C'est un annuel, hein, ils sont passés d'une parution semestrielle à annuelle. C'est le numéro 15. Il est en vente 19€ en librairie spécialisée avec un dossier sur Dupuis et Berberian. Donc, les deux personnages qui sont vraiment dessinateurs et scénaristes ensemble. Très peu d'œuvres qu'ils ont fait séparées l'un de l'autre. Et justement, c'est assez intéressant à lire. Il y a une analyse sur Fred, l'auteur de Philémon, intitulée Le dessin qui rêve. Donc franchement, si vous connaissez un petit peu Philémon, je vous en recommande la lecture, c'est très agréable, très intéressant à lire. Une autre sur le feuilleton en bande dessinée, que cela soit Tardi ou le comic book. Une analyse de la culture nippone dans l'Eldorado japonais Mythe ou réalité, avec des graphiques qui sont assez intéressants. Ça va vraiment être la base, je pense, du prochain festival, du prochain spécial manga dans le supplément week-end, puisque là-dessus, on a une analyse, je vais dire, des ventes, de tout le reste, une analyse en France, où ils ont pris une série qui marche bien, c'est-à-dire Naruto, et en fonction de chaque tome, savoir justement comment se répartissent les ventes. Attention, on parle de ventes effectives, on ne parle pas de les ventes annoncées par les éditeurs. C'est des ventes réellement réalisées. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt passionnant. À noter que le dossier Dupuis et Berberian est aussi disponible à part, dans un fascicule au même format, mais plus léger, qui vaut 10€. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu moins que le dossier qu'il y a dedans, et en plus tout est en noir et blanc, alors que là on a les illustrations en couleur. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est en tout cas, vous pouvez le retrouver dans les librairies spécialisées. À part, et là c'est un petit peu plus professionnel, il s'agit de L'état de la bande dessinée, Vive la crise, qui est sorti, édité par le CIBDI en coproduction avec les impressions nouvelles. Il s'agit du résumé, en fait, du colloque, du 3e colloque annuel, hein, les universités d'été de la bande dessinée, qui a lieu début juillet à Angoulême. C'est un état dans lequel, quand même, nous quatre, hein, on peut pas nier, c'est le nombre de parutions. Depuis 95, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Déjà en 2000, quand on était à 1000 nouveautés par an, on disait, là, on va saturer. On en est à 5000 actuellement. Jusqu'où ça va monter? C'est la bonne question. Et les libraires, les éditeurs disent, ah, mais non, mais il faut arrêter la surproduction. Mais en fait, eux-mêmes, ils en sont très satisfaits. Est-ce qu'il y a une limite? Allez savoir. En tout cas, justement, on a la haute direction et la modération de Benoît Péter. C'est surtout les dessins pris sur le vif de Mathieu Sapin et des interventions. Alors, c'est pas n'importe qui intervient dedans, puisqu'il y a Jean-Pierre Messier, Annabelle Pedot. Il y a aussi des interventions. Ben, j'ai vu Didier Passamonique.
The famous Stéphane Berfoot-Beaujean, non? Stéphane Beaujean aussi, non?
Ouais, je l'ai vu passer. Il y a Louise Delas, qui est le patron de Casterman, et qui s'exprime en tant qu'éditeur généraliste. C'est pas mal du tout. Surtout un éditeur, quand même, qui existe depuis 1790 et qui dit, ça tombe bien parce qu'en relisant les archives du début du 19e, en fait, il y a des bouquins où déjà les représentants de commerce se plaignaient de la surproduction. C'est assez amusant à lire. Il y a Émile Bravo qui parle de son travail d'auteur sous licence. Hein, ça c'est moi qui le dis, hein, je le rajoute. Xavier Guibert qui se pose la question, qu'est-ce que finalement que la bande dessinée populaire, et vendre de la bande dessinée aujourd'hui, un débat entre Éric Garnier, Xavier Guibert, Vincent Pouet-Domange,
qui est un libraire Bachibouzouk Pau, librairie, voilà. Canal BD.
Exact. Et Frédéric Salmand, enfin forcément avec toi c'est exact, c'est pas comme moi. Je vais dire, c'est une lecture qui est vraiment archi professionnelle. L'état de la bande dessinée, Vive la crise, mais en tout cas c'est une lecture justement qui est intéressante. Alors j'ai pas eu le temps de le feuilleter en détail, c'est pour ça que je n'en ferai pas de résumé. Néanmoins, je prendrai le temps justement de l'analyser. À côté de cela, Benoît Peters vient d'inaugurer un genre, ça s'appelle l'autobibliographie. Écrire l'image, un itinéraire, c'est aux impressions nouvelles, excusez-moi. Alors, C'est un type qui a été romancier. Il avait commencé avec un roman qui s'appelait Omnibus. Il est scénariste avec Les Cités Obscures. Il a été essayiste sur Hitchcock, Nadar, mais surtout Tintinologue, où, avec son essai sur Les Bijoux Ravis, qu'il a récemment d'ailleurs remis en forme, tout ce qu'il a écrit justement autour de l'œuvre d'Hergé. Il est d'ailleurs un petit peu en bis-bis avec Nick Rodwell. Enfin, il l'a été.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde, voilà. Il a été réalisateur de cinéma avec Le Dernier Plan, sorti en 99. Ce livre, en fait, vous allez me dire, c'est une auto...
Casse-planche récit aussi, qui est un grand livre.
Et qui est un grand livre d'analyse.
Qui est un grand livre ouais. de théorie de la bande dessinée. D'ailleurs, accessible et néanmoins assez.
Aussi assez aux impressions nouvelles, d'ailleurs. Et vous allez me dire, c'est quand même gonflé d'écrire comme ça une autobiographie. Eh ben non, c'est pas n'importe quoi, en fait. Ce livre est en fait une mémoire de synthèse présentée à un jury dans le cadre d'une habilitation à diriger des recherches à la Sorbonne, c'est-à-dire à l'Université Paris 1. Ce qui veut dire qu'en fait, ben justement, il montre tout ce qu'il a travaillé de son côté et ce vers quoi il l'a tendu et surtout ce qu'a amené son maître à penser, celui qui l'a aidé dans ses études, à savoir Roland Barthes, justement, donc ce qui devrait l'amener normalement à un poste d'universitaire prestigieux. Benoît Peters, Écrire l'image, un itinéraire, donc c'est aux impressions nouvelles. C'est intéressant parce qu'il y a plein de dessins, il y a surtout une mise en perspective de toute son œuvre et ce vers quoi il a amené. C'est clair, c'est la bande dessinée analytique, vraiment, hein, à son plus haut niveau, mais qui ne se cantonne pas à la bande dessinée. Ça se cantonne aussi au roman, ça s'ouvre vers le roman, ça s'ouvre vers le cinéma, et ce sur quoi, justement, les clés qui permettent d'accéder aux cités obscures et tout ça. C'est un beau pavé, hein, je vais vous dire, 160 pages.
Appelle la référence peut-être.
Écrire l'image, un itinéraire, c'est aux impressions nouvelles, donc de Benoît Peters. Et pour terminer donc sur la partie purement réservée, je vais dire aux connaisseurs, c'est même pas les connaisseurs, c'est les archives professionnels de la bande dessinée. François Hérol, nouveau moment clé de l'histoire de la bande dessinée, c'est chez Alain Bollet, éditeur. Alors vous allez me dire, c'est sorti depuis un bail. Bah ouais, bah il faut que je tombe dessus à Angoulême pour l'acheter. Alors qu'il est disponible à Toulouse, voilà, on la trouve aussi bien chez Album, je ne suis pas sûr, mais au moins chez Terre de Légende. Et c'est la suite de ces 28 moments clés qui étaient parus au 9e Monde, et on va dire que c'est un humour quand même qui est un petit peu cryptique quand même, à part les libraires, les journalistes spécialisés, les auteurs, les amateurs très très éclairés, peu de gens pourront comprendre le sel des gags de François Hérol. C'est un seul dessin, une légende lapidaire, qui donne une version hilarante pour ses initiés sur des auteurs, des éditeurs, des personnalités archi précises, disons-le, assez confidentielles de la bande dessinée. Alors oui, vous risquez de ne comprendre que la moitié. Moi, ce qui me fait franchement beaucoup rire, c'est Segar, le créateur de Popeye, qui rencontre un cow-boy et qui dit « You think I'm Taylor ?» C'est un petit gag comme ça, qui raconte justement l'histoire de la bande dessinée, comment l'association s'est formée. C'était quatre jeunes qui n'osaient pas danser en discothèque. José Munoz qui rencontre Carlos Sampaio à l'époque du disco, c'est assez fun et c'est des petits gags qui à mon avis sont un petit peu compliqués, hein, honnêtement, pour les non-initiés, mais c'est un moment qui est assez passionnant.
Oui, c'est clair qu'il faut connaître, par exemple, Mandrika qui va au marché. Si tu sais pas qu'il a fait le concombre masqué, tu peux pas saisir la blague.
Voilà.
Il faut savoir que ce sont des dessins qui ont été diffusés sur écran géant pendant la cérémonie de remise des prix, pendant les discours des intervenants différents. Donc la salle était pliée de rire alors que le discours n'était pas franchement rigolo.
Oui, je suppose que s'ils ont fait ça pendant l'hommage à Moliterni.
Pas à Moliterni, non.
Mais Fabrice Nau qui opte pour un cahier à spirale, cher journal, si on ne sait pas justement qu'il a écrit le journal aux éditions Ego Comics, on est un petit peu coincé. Quoique aussi, celui-là, à mon avis, une sœur et ma copine vont comprendre. Bill Watterson refuse des offres. Avec tout le rang, de, je vais dire, des vendeurs de produits à licence qui veulent mettre du Calvin et Hobbes partout. Et qu'à suite de ça, bah, Will Watterson a dit, bah, je crois que je vais arrêter parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol d'être démarché là-dessus. Voilà, mais ça, c'était le festival d'Angoulême. Ceci dit, en ce moment, il y a un festival à Toulouse qui s'appelle Medinasia. Ah, j'en vois un qui se réveille. Et qui est là pour...
Qu'est-ce que vous faites tous dans ma chambre?
Qui a lieu donc, si je me trompe, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Hein.
Jusqu'à demain, précisément.
Juste... Oh, merde.
Ce sera le début de la semaine prochaine. Non, jusqu'à demain, le, bah oui, le festival Made in Asia, association Chin Chin. Mmh. Depuis deux semaines, c'est toute une suite d'événements, principalement autour de l'Asie, mais plus généralement autour de tous les pays asiatiques, des phénomènes culturels. Il y a eu des pas mal de projections de cinéma. Il y a eu des pièces de théâtre avec la présence de l'auteur japonais. Il y a eu hier deux auteurs de l'Empire du Milieu, qui sont Jiang Yi et Ji Han,
que tu as sur le que tu as fait venir à une table ronde sur laquelle le public a pu s'exprimer.
Alors je les ai fait venir, ils sont venus en avion, hein. Moi j'ai pas j'ai pas beaucoup influé là-dessus.
T'as été le host.
Oui, enfin ils ont bon, ils sont venus, ils ont pendant toute la journée ou du moins toute l'après-midi, ils ont dédicacé à la librairie Album. Et ensuite ils sont intervenus lors d'une table ronde que j'ai animé modestement avec Tony Valente, donc qui est un auteur local, un auteur de BD local qui est pas mal influencé, avec également Julien de la librairie Album. Donc tous les quatre ils ont discuté. C'était plutôt sympa, hein. On était bien, on était au Centre culturel Bellegarde, bien installé. Centre culturel Bellegarde où ce soir, hein, il y aura la nuit du manga. Alors la nuit du manga, on va pas regarder des bandes dessinées, c'est de l'animation. On comprend ce que ça veut dire. Ça commence à 18h30. Non, mais c'est vrai. Voilà, on comprend que ça va être de l'animation et pas à proprement parler du manga, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire de la bande dessinée. En revanche, ça va être de l'animation de très bonne qualité. Donc 18h30, ça va commencer par Spriggan. Ça continuera par Qui est la petite peste. Il y aura aussi Gitz Standalone Complex, donc Ghost in the Shell, c'est un autre complexe, le téléfilm de la série animée et tout ça,
c'est
vachement bien.
Lequel,
le premier ou le deuxième? Je ne sais pas, le premier ou le deuxième, mais en tout cas ce sera ça et ce sera bien. Et il y aura un quatrième film que j'ai complètement oublié, mais il sera pas mal non plus.
Et consultable, on a mis le lien d'ailleurs sur le site superonweekend.fr, sur le site de l'association Chin Chin.
Exactement, Made in Asia. Et là, donc cette nuit d'animation, 18h30, 6€, 1,50€ le film, c'est même pas la peine d'en parler. Ce sera présenté par la personne Anton Guzman qui a fait la programmation. Il sera là, il va présenter la totalité, chaque film, il va aller commenter, il va dire un petit mot. Je pense que c'est carrément pas mal. Le festival se clôture demain soir, une projection en avant-première d'un film chinois, ça va être pas mal aussi, je pense.
Lequel?
Un très bon film chinois.
Accessoirement, si cet après-midi vous faites rien, Manu Larsenet, Jean-Yves Ferry et Yvan Lidingre seront en dédicace à la librairie Ombre Blanche à partir de 15h. Donc Manu Larsenet sera entouré de ses deux scénaristes, Jean-Yves Ferry.
Avec l'émeute, hein.
Pour Retour à la Terre, et Yann Lidring pour chez Francisque. Il y aura une émeute si jamais j'arrive avec chez... Bonjour, je suis journaliste.
Savez, non, tu dis je suis d'actu BD.
Ah oui, c'est pire. Non, mais il a quand même allumé...
Non, là, il y aurait de la baston, c'est pas la même chose.
Il a allumé quand même des vies, hein, alors qu'ils se connaissent. Il a dit, ah, tu vois, le t-shirt, là, il l'a eu gratos.
Il y a aussi des projections, il se passe vraiment beaucoup de choses autour dans cette mouvance BD en ce moment, c'est vraiment énorme. Il y a aussi des projections de films HK à la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre de Medinasia, encore aujourd'hui et demain je crois. Enfin, il y a de quoi faire ce week-end, ça tombe bien, il fait un peu moche. Faut aller dans les salles de ciné, faut aller traîner dans les librairies, aller causer. Je crois que c'est un bon week-end, mais c'est comme ça tous les week-ends à Toulouse, non? C'est la fête
tout le temps.
Tout le temps, hein, non-stop, et pas que le week-end d'ailleurs.
Et vu qu'il est 12h55 et qu'on on a pris vraiment notre temps et on ne pensait pas y croire, et du sport il est là, ils disent putain les jeunes vous faites chier, vous allez me niquer l'émission, il y a le rugby, il y a le tournoi destination, tout ça. Heureusement Thomas lui il est là et on va parler, ben je vais dire, de cinéma pour rester dans la mouvance. Pour pas dire une radio concurrente que l'on colle des stickers dessus.
dans le mou.
J'aime bien, il fait des privés de jokes à l'antenne.
Ouais, c'est... pardon, désolé.
C'est le neurone, il est parti, vous savez, c'est comme Julien Lepers.
Ça, qu'est-ce que j'ai fait?
Bah, tu t'es planté de jingle.
On
parle d'un film avant l'autre film asiatique.
Ouais, ouais. C'est bien ce qu'il me semblait.
Ouais. Bon, pardon, d'accord, désolé.
Non, mais c'est bien.
J'ai cherché le fond.
C'est pas comme si c'est toi qui faisais le conducteur, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va parler d'abord de Slumdog Millionnaire de Danny Boyle avant d'enchaîner avec le film asiatique. Bah, même si c'est bon, c'est dans le même coin hein, en même temps. Donc, c'est le nouveau film de Danny Boyle avec les débutants Dev Patel, Freida Pinto et les plus expérimentés Anil Kapoor et Irfan Khan. Peut-être que du sport qui est Bollywoodophile, ça te dira quelque chose.
Non.
D'accord. Alors, c'est l'histoire de Jamal Malik, un jeune garçon issu des bidonvilles de Mumbai qui est sur le point de gagner 20 millions de roupies à la version indienne de Qui veut gagner des millions. Mais il est arrêté. Voilà.
Mais il a appelé un ami. Ils n'ont pas de téléphone.
Ça, c'est millionnaire, ça.
Ils n'ont pas de téléphone.
Mais il est arrêté pour fraude avant de répondre à la dernière question et torturé pour qu'il lit son secret. C'est toute sa jeune vie qui va passer en revue, de son enfance dans les détritus aux rapines pour survivre, en passant par l'Attica, l'amour de sa vie. Alors, quand vous redocumentez un petit peu sur le film, enfin quand vous savez pas trop, quand vous voulez aller le voir, donc ils disent donc quel est le secret du jeune, bon voilà, c'est un enfant qui a vécu dans la pauvreté et tout, comment se fait-il qu'il connaisse toutes les réponses? Bon, le principe du film est éventé dès les 5 premières minutes, puisqu'on comprend en fait que tout ce qu'il a vécu dans sa vie l'a poussé à savoir les réponses. Donc c'est une suite d'énumérations de moments clés qui on va vous expliquer comment il en est arrivé à connaître les réponses. Donc c'est un moyen de, à travers le fil rouge de l'émission Qui veut gagner des millions, de passer en revue donc sa vie, ses 18 années. Et donc justement Danny Boyle, c'est surprenant que ce soit lui qui soit derrière les manettes, puisqu'il délaisse un petit peu son univers frigido anglais qu'il avait fait dans ses derniers films avec 28 jours plus tard et Sunshine, le film de science-fiction, pour nous livrer un film qui vraiment qui se passe en Inde, donc c'est les couleurs chatoyantes, etc. Super énergie, qu'il utilise plusieurs techniques, par exemple il va filmer avec un appareil photo pour pas que les gens comme c'est une super foule là-bas, pour pas que les gens regardent la caméra. Donc il va tout filmer à l'appareil photo, il va tout monter en 12 images secondes par exemple. Donc ça fait un côté un petit peu découpé, qui est pas mal vraiment, et qui donne pas mal d'énergie aux scènes. Et donc voilà, donc ça, le film quand même, ça reste une ode optimiste, puisque c'est bon, le petit jeune il part de rien, et il arrive... Est-ce qu'il va finir, parce que finalement le principe de qui veut gagner des millions, c'est tu as beau arriver jusqu'à la dernière question, si tu te plantes t'as tout perdu. Donc c'est un peu ça le fil rouge du film également.
Enfin non, t'as des paliers quoi.
Oui, tout à fait, mais bon, les millions, c'est que au dernier palier que tu commences à avoir les millions. Avant c'est un peu coquette somme, mais bon voilà. Et donc justement c'est... En y réfléchissant, c'est un film qui paraît assez simple au premier abord. Bon, voilà, c'est bon, tu connais la réponse. Comment tu connais la réponse? Donc, il va raconter à l'inspecteur comment il connaît la réponse. Et après, finalement, quand tu y réfléchis, c'est un peu plus riche que ça. T'as le duo, parce qu'il a un frère. Ils sont trois jeunes qui ont grandi ensemble. Donc, les deux frères ont des parcours antagonistes. Il y en a un qui est plus enclin vers la violence et la délinquance. Et lui, c'est un petit peu le rêveur poétique. Donc, on voit vraiment les deux parcours vraiment en parallèle. Même la façon dont ils finissent à la fin, vraiment répondre aux deux parcours aussi, on va pas trop spoiler non plus là-dedans. Et voilà, donc c'est un film qui n'épargne pas non plus la violence inhérente à l'enfance dans la pauvreté, à l'exploitation enfantine, etc. Donc il y a quand même quelques scènes qui te retournent un petit peu l'estomac, même si rien n'est montré évidemment. Mais bon voilà, Slumdog Millionnaire, personnellement moi ça m'a... J'étais un tout petit peu échaudé parce que tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, nominé, multi-nominé de partout. Mais après, ça reste quand même un bon film. Ça m'a vachement évoqué l'univers, toute proportion gardée évidemment, avec son naturel en moins, des Kusturica. Cohabitation entre l'univers pauvreté vraiment glauque, glauquissime, et qui peut se transformer au détour d'un plan en poésie ou une ouverture vraiment quasi surnaturelle. Donc c'est vraiment surprenant. Donc c'est le dernier film de Danny Boyle, Slumdog Millionaire, avec Dev Patel et Freida Pinto, et qu'on nous vous recommandons chaudement, et qui est probablement à l'affiche pour quelques temps encore, puisqu'il va certainement avoir encore des récompenses aux Oscars.
Est-ce que c'est une production en demol ?
Non.
Oh oui, j'ai eu peur.
Maintenant, nous allons enchaîner avec un western. Alors, Xavier va me dire, mais c'est pas ce que tu m'avais dit, c'est japonais. Ben oui, justement, c'est un western japonais.
Ouais.
Non, c'est pas ce que tu m'avais dit que c'était un Mickey.
En plus.
En plus. Oh là, c'est international. Avec le nouveau film d'un réalisateur, vous savez maintenant qu'on adore ici, c'est Takashi Miike avec son dernier opus Sukiyaki Western Django, un film réalisé en 2007 et qui sort tout juste chez nous en DVD avec Hideaki Itō, Yusuke Isaya, Kaori Momoi et Quentin Tarantino, et c'est édité chez M6 Vidéo. Oui, Tarantino a un petit rôle dedans. Bon, évidemment pour l'exploitation internationale, ils ont foutu sa gueule en gros sur le DVD, Donc on le voit,
dans la scène d'intro en fait, et puis à un moment également en flashback dans le film, mais c'est tout. Hein, c'est vraiment le petit caméo, et puis on le voit également quand il est maquillé vers la fin, quand il est
maquillé
vieux,
en vieux. Ouais. Alors en pleine guerre de Genpei, c'est la guerre civile au Japon qui s'est déroulée entre 1180 et 1185. Un homme sans nom débarque dans une petite ville des montagnes alors que deux clans, les Genji les blancs et les Heike les rouges, se disputent la domination du village. Au milieu, un shérif poltron et schizophrène et une tripotée de Glegengo, comme seul Miike a la recette. Alors évidemment, le gars tout seul qui va dans un village partagé entre deux clans, ça va vous rappeler quelque chose. Hein, les Yojimbo, les pour une poignée de dollars, etc.
Donc, Roméo et Juliette.
Aussi, non. Et donc c'est un film qui fait référence à la guerre des deux roses. C'est une série de guerres civiles en Angleterre qui a pris fin en 1485 entre la maison d'York et la maison de Lancastre. Et justement dans Sukiyaki Western Django, le chef des rouges est passionné par Henri VI. Et d'ailleurs il se prend tellement de passion pour Shakespeare qu'il veut que tous ses hommes l'appellent Henry. Donc il faut savoir aussi que c'est un film japonais qui est tourné en anglais intégralement. Quasi intégralement à 99%, puisque les seules répliques en japonais sont dites par Tarantino. Ouais. Assez rigolo.
Donc c'est Mikey. C'est pas Mickey, c'est Mikey.
Oui, voilà. Prononciation anglophone, oui, voilà. Et dans les bonus du DVD, Mikey, justement, il nous dit que, on a tourné en anglais, c'est pas du tout pour l'export. C'est juste pour respecter la tradition des westerns. Évidemment, pourquoi il a pris Tarantino aussi, c'est bizarre. Bon, après, c'est vrai que c'est son pote, hein, parce que Tarantino avait produit Hostel, dans lequel Miike avait fait une participation, le film d'Eli Roth. Donc, c'est pour les fans de Miike, vraiment, qui sont tombés en adoration devant Ichi the Killer, devant Gozu, la trilogie Dead or Alive. Ce film-là, ce western, c'est plutôt un hommage à un genre de cinéma. Et vous retrouvez pas vraiment le Miike vraiment déglingué. Il y a quelques scènes qui rappellent un petit peu son univers. Bon, pour un western, forcément, c'est bizarre. Mais pour un film de Miike, franchement, non. C'est plus mainstream que ce qu'il fait d'habitude, franchement. Après, si vous regardez le film comme un hommage...
On se souvient des regards traumatisés de nos amis auditeurs quand ils sont allés voir Ichi the Killer.
Oui, avec les scènes de violence et de torture, ils sont suspendus.
Mais pourquoi vous nous avez emmené voir ça? Pourquoi vous nous avez dit que c'était bien?
Bon, après, que les fans de Miike se rassurent, il y a toujours des personnages en couleur, comme ce shérif partagé entre les deux clans. Il essaie de survivre, malheureusement, donc...
Le personnage du shérif est d'ailleurs très très bien rendu, l'acteur est vraiment excellent.
Oui,
je trouve, hein, c'est lui qui arrive justement quoi à bien
dérider les côtés un petit peu trop dramatiques, trop poussés, on va dire, hein, dans l'hommage qui est rendu. Quoi.
Trop premier degré, oui.
Et lui, bon, bah, il arrive justement quoi, à dégager un petit peu tout ça. Quoi. C'est
au beau milieu,
très rafraîchissant.
Au beau milieu d'une scène classique, tout d'un coup, il y a le shérif qui est schizophrène, donc il sait pas, par exemple, il est dans un chemin, il sait pas s'il veut aller à gauche ou à droite. Donc ça rappelle un petit peu la schizophrénie jouée par Jim Carrey dans Food Irene.
Il a
ses mains qui essaient de se vers la droite, après il va vers la gauche, donc c'est assez rigolo.
Il rappelle de visage, c'est certainement pas lui, mais il rappelle de visage un petit peu le sidekick de Takeshi Kitano quand Kitano faisait ses émissions à la télé, où il était avec un type, quoi. Ils étaient à deux, quoi. C'était un duo comique. Et sa tronche me rappelle, à un moment je me suis dit tiens c'est bizarre, mais enfin bon ça peut pas être lui à mon avis
il est mort
en plus quoi tu
déjà,
vois
oui. Après les trucs rigolos dans le film, bon il y a Tarantino, il joue le rôle d'un maître qui va enseigner son art à Bloody la Sanglante, hein, c'est Bloody Benten, voilà, c'était une nana voilà, un sacré personnage dans le film également. Et les scènes où il apprend justement son art à la nana sont tourné dans un studio avec un soleil couchant en carton-pâte derrière, vraiment assez rigolo. Et ensuite on le voit, donc on l'a dit, grimé en vieux, où il dit oui j'ai eu un fils, alors je l'ai appelé Akira parce que faut bien se rappeler que je suis un animé otaku.
Alors que c'est un prénom qui est quand même aussi courant que
tout à fait,
que Jean ou Stéphane.
Merci.
Donc Mickey, c'est intéressant de voir ce qu'il pouvait comment il pouvait se débrouiller avec un tournage de grande ampleur, hein, puisqu'on voit vraiment que c'est il y a rien qui est factice, ils ont vraiment tourné dans la montagne, dans la boue, il y a
un duel magnifique,
un duel final absolument superbe dans la neige entre un Colt et un sabreur.
C'est assez marrant, et puis bon, ça fait partie un petit peu du trip de Mickey, hein, c'est que l'invraisemblable, rien à foutre, hein, c'est-à-dire que t'as le village qui est complètement désert et tout juste avant le combat final. Et d'un seul coup, t'as de la neige qui tombe, et puis bon, t'as 20 cm de neige quand commence le combat juste après, tu vois. Mais non, mais c'est normal, c'est tout à fait normal.
Attends, c'est pas aussi un hommage à Kurosawa, puisque c'est...
Tout à fait, oui,
il y avait l'un des grands films de Chambara qu'il avait fait, où justement se terminait dans la neige, quoi.
Plusieurs, un autre Brother in Arms qui est pareil, hein, où il y a également ce duel final dans la neige et tout, quoi. Mais il faut reconnaître que bon, Mickey, là, il réussit quand même quelque chose de très fort, hein. C'est rendre un hommage appuyé à un film de genre, à un cinéma de genre, et le faire de cette manière là on peut que tirer notre chapeau, parce que bon, vraiment il réussit à fond. C'est pas un chef d'œuvre, hein, c'est pas une œuvre immémorable, mais c'est
il a un capital sympathie assez énorme.
Franchement, il y a rien à dire, hein, avec quelques petits effets comme ça, comme qui rigole, la flèche qui passe dans le trou du ventre du mec, enfin, des trucs comme ça. Ok, bon, je veux dire, là tu reconnais un petit peu le coup de folie de Mickey, qui se dit ok, on va y aller à fond, franco.
Après, ce film a aussi ce film aussi a les défauts des Mickey, puisque avouons-le, les trois premiers quarts d'heure dans les Mickey sont souvent des scènes d'exposition un peu chiante, on va dire, hein, par rapport à la dernière demi-heure est barrée complet.
Mais là, dans ce cas de figure, c'est bon, l'hommage au film de genre, c'est-à-dire il y a la suite de scènes qui sont les hommages rendus, les passages obligés, on va dire, du film de genre, quoi, du western.
Le mec qui arrive, qui va s'installer au saloon, il va faire connaissance avec sa piole, etc. Donc avec certains personnages qui rappellent aussi la grande tradition. Il faut savoir aussi que on parlait du duel final dans la neige. Tarantino aussi avait rendu hommage à travers la fin de Kill Bill également, à cette grande tradition.
Les Disney
De ouais. Chambara, ouais.
Les Disney Blood aussi, exactement. Sukiyaki Western Django, c'est bon film bon western japonais tourné en anglais, avec un excellent making-of très complet de 50 minutes en guise de bonus. On voit que l'équipe en a bavé à cause des conditions météo. L'interview de Tarantino face à la presse, pour ça c'est le minimum syndical, il fallait vraiment un bonus avec Tarantino. Quand on sait de quoi est capable le bonhomme en matière d'explication, on reste un peu sur notre faim, mais ça reste quand même sympathique. Et puis la séquence effets spéciaux, les bandes annonces, non, ça va, c'est les bonus sont à la hauteur. Bon film sympathique de Takashi Miike qui s'appelle Sukiyaki Western Django, édité en DVD chez M6 Vidéo.
Tu peux nous répéter le titre lentement, parce que j'arrive pas à noter la référence.
Sukiyaki Western Django.
Ok. Et ça m'est revenu, c'est Millennium Actress, du fameux Satoshi Kon, le quatrième film, le troisième mousquetaire de la nuit de l'animation. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai oublié le
pas
meilleur
mal.
Peut-être. Voilà.
Pas mal. Parce qu'en fait, ce que vous voyez pas, c'est que donc il nous a amené des bouteilles de limonade gazeuse et il était emmerdé comme moi avec la bille. Et moi, j'ai trouvé le truc, c'est qu'en fait, ça se coince à cet endroit. Alors, tu peux nous dire où c'est que tu as trouvé ces bouteilles à Toulouse?
Alors, c'est des petites bouteilles de limonade bien japonaises en import. Je les ai trouvées au Tokyo Café, qui est un manga café qui s'est ouvert au mois d'octobre à Toulouse. Ça se situe 56 boulevard d'Arcole, juste à côté de l'OTAN.
Et c'est surtout, c'est en face de la place Arnaud Bernard.
En face de la place Arnaud Bernard.
Et là où bossait JB.
Là où bossait JB, sûrement. Là où est né Claude Nougaro. Voilà, c'est la maison natale. C'est un lieu qu'on voit pas trop, qui est un petit peu planqué par l'OTAN à côté et tout ça. Mais c'est magnifique à l'intérieur. C'est un endroit qui est à la fois convivial et classieux. Il y a 4000 mangas en présentation que vous pouvez venir lire, bouquiner pour 3€ de l'heure. Là encore, j'ai l'impression de faire de la pub. Vous avez l'impression que je fais de la pub, mais c'est vrai que c'est vachement sympa. Une petite équipe dynamique, une belle initiative. Ce qu'ils attendent, c'est de se faire connaître, que vous y alliez. 3€ de l'heure, vous avez la boisson à volonté, boisson chaude, boisson froide. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo, lire du manga jusqu'au bout de la vie. Franchement, c'est un bel endroit à Toulouse, ça commence. Il y en a quelques-uns. Ce qui est sympa, c'est que moi j'en vois un petit peu partout dans les villes de province. J'en vois à Paris des mangas qui ça, des libraires de mangas. C'est des gens, ils ont 25 ans, ils se lancent, ils investissent dans la pierre, ils sont passionnés en même temps totalement pro, que ce soit les libraires, les mangas qui ça. Je dis chapeau et puis longue vie.
Ouais. Et d'ailleurs, je profite que tu sois là puisque on a reçu 10 000 images, le deuxième numéro donc de cette revue d'analyse sur la bande dessinée et surtout principalement sur le manga, avec un grand numéro sur Osamu Tezuka qui est le dieu
du manga.
Du manga, pour une raison toute simple, parce que c'est lui qui a vraiment popularisé au Japon le manga, qui a créé les codes modernes du manga à la sortie de la guerre, qui a travaillé dans énormément de genres différents et qui a aussi fait démarrer l'activité du dessin animé au Japon avec la première série en animation et le premier film en animation qui soit devenu un succès populaire. Il y en a eu d'autres auparavant mais qui n'avaient pas marché. Et c'est lui un peu qui a trouvé le système du stop animation pour permettre de commercialiser ça.
Avec des banques d'éléments, des banques d'yeux, des banques de membres.
Ce qu'on appelle l'animation limitée, en fait, que vous connaissez tous, Olivier Taube, quand il court, il y a le décor qui bouge tout lentement. Quand il parle, ils ont la bouche qui fait « ah, 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 ah ». Voilà, c'est lui, Tezuka, au tout début, il a lancé Astro Boy en 62. Il a fait le pari complètement gueudin de dire « ouais, moi je vais faire 26 minutes d'anime chaque semaine et ça va marcher, et commercialement ça va être ok ». Il l'a fait et toutes les séries d'animation qui ont bercé votre jeunesse, elles viennent de là, c'est tous les enfants. On n'aurait jamais eu Miyazaki, on n'aurait jamais eu
Akira
ou Oshi si Monsieur Tezuka il avait pas œuvré. Et cette revue, moi je suis très jaloux parce que quelqu'un l'a fait et puis c'est pas moi.
Non mais vraiment,
j'aurais adoré faire ça parce qu'il n'y a pas de bouquin de référence sur Tezuka. Tezuka, c'est un illustre inconnu en France. C'est un vrai travail de patrimonial. De faire connaître.
C'est vrai que le seul bouquin jusqu'ici qui en parlait, c'était Thierry Grosten qui avait fait un état de l'art sur le manga et qui avait consacré un grand chapitre. Et c'était tout.
Et c'est une sacrée somme. Alors c'est un peu savant. C'est vraiment une revue.
C'est un truc assez universitaire.
Un peu pour les spécialistes. Mais néanmoins, on apprend plein de choses. On apprend que le statut de Tezuka, tel que tu le présentes, tel que je le présente, en effet, il est un petit peu plus noir et blanc et pas forcément le dieu du manga qui a tout fait, etc. Et tout ça. C'est très intéressant. C'est très bien fait. C'est fait par des gens qui sont spécialistes, par des japonisants, donc qui ont accès au texte en VO, qui ont accès à la masse d'infos sur Tezuka. Donc chapeau à Hervé Briand qui a monté cette maison d'édition qui s'appelle 10 000 images, qui est bien connue sur le forum Mangaverse sous le pseudonyme d'RBV. Chapeau, voilà.
C'est bravo de l'avoir dit.
À compléter avec la série de BD chez Casterman, la biographie de Tezuka, voilà, qui est vraiment excellente.
4 volumes, Tezuka Productions qui a fait une biographie de Tezuka et c'est un peu la classe, ouais, aussi.
On va enchaîner avec la télévision parce qu'il est 13h15 et on déborde encore très largement et du sport va dire, mais moi aussi j'ai des choses à dire.
Sport.
Et je sais que tu adores tout ce qui est Bollywood et tout ça. C'est ça ou les séries hollandaises?
Ah ouais, ouais.
Alors, Disport, ah, dis-moi ce que l'on a au bout de la sainte télécommande.
Non, non, mais bientôt, je vous ferai la chronique des deux gros blockbusters de l'an dernier de Bollywood, Jodha Akbar, et dont je vous ai parlé, Jodha Akbar d'ailleurs, hein, la plus grosse production bollywoodienne en termes de fric, hein, c'est-à-dire un truc qui a coûté une somme énorme, énorme, énorme pour un Bollywood, 15 millions de dollars, ce qui est énorme pour un Bollywood, tu vois. Ici ou aux États-Unis, tu payes même pas Benjamin Button avec ça. Mais à Bollywood, on te fait tout un film avec des putains de milliers de figurants et tout. Enfin bon, voilà quoi, un truc épique, tu vois. Et Home Shanty Home aussi, qui est une agréable petite comédie avec le roi de Bollywood, Shah Rukh Khan. Mais ça, il faut d'abord que je me les mate sérieusement. De la télé, alors j'ai loupé la semaine dernière, on n'a rien fait, un petit peu logique, et donc
on n'a rien fait, comment ça?
Si, vous
déconnes,
vous, mais pas
Xavier
moi.
Et Thomas dormait.
Mais pas moi. Donc j'ai loupé le début de la diffusion de Burn Notice, une série qui a l'air bien sympathique et tout. Du coup moi aussi j'ai loupé la première diffusion, mais c'est normal, je regardais Dirt à la place. Burn Notice, donc une série qui est très sympathique avec un revenant à la télé. On l'avait pas vu, on l'a rarement vu à la télé d'ailleurs, mais c'est son retour, c'est Bruce Campbell. Alors Burn Notice, en fait, eh bien, ça ressemble à ce que à la rubrique que JB nous a fait il y a pas longtemps à propos du film des Coen, à savoir Burn After Reading. C'est le même genre de truc, Burn Notice, parce que ça se passe dans le même milieu, à savoir le milieu de la CIA. Et en fait, c'est les papiers qu'on brûle quand on fout un agent à la retraite et tout, quoi, pour qu'il n'y ait plus de backing et tout. Bon, ok, on le connaît plus, terminé, quoi. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'un agent qui se retrouve comme ça, être mis en disponibilité, on va dire, du côté de Miami. Et là, il se retrouve pas seul, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a son vieux pote Bruce Campbell qui est là et qui fait des petites conneries pour garder la main, parce que bon, il faut aussi faire du pognon. Il y a également Gabriel Lanois. Et il va leur arriver pas mal de trucs. Et justement, le petit pitch, c'est également de savoir pourquoi il a été foutu en dispo, alors que bon, il est pas du tout vieux et tout, quoi. Il est interprété par Jeffrey Donovan, c'est le mec qu'on avait vu dans Le Caméléon. C'était le frère jumeau de Jarod. C'est le méchant, là.
Ah oui, celui qui écrivait sur des cahiers bleus.
Ouais,
parce
ouais.
Parce que Jarod, c'est cahier rouge.
Voilà.
Jeffrey Donovan, donc le héros de Burn Notice, avec Bruce Campbell, donc dans ses retours à la télé, hein, comme ça. On l'avait pas vu beaucoup, hein, on l'avait vu dans les Xena et tout ça, quoi, où il faisait des apparitions, c'est normal, mais c'est les potes à Sam Raimi, et Sam Raimi c'est le producteur, donc c'est normal, hein. Et puis il y a son frangin aussi, il y a Ted Raimi qui joue dedans, alors bon, merde, faut pas déconner quand même. Donc Burn Notice est à regarder, c'est jeudi prochain sur W9 à 20h35, mais c'est quand même Full Frontal, avec deux autres séries dont je vous parle, qui ont lieu également le jeudi prochain. Alors Dirt, vite fait, bien fait, parce que bon, je me suis tapé les deux premiers épisodes de la saison 2 et tout, il y avait beaucoup de doutes au sujet de cette saison 2, après une saison 1 qui était vraiment excellente, vraiment très très bien excellente, et bon bah on avait quand même des craintes sur cette saison 2, craintes qui s'avèrent vraiment très confirmées. Alors vraiment, c'est un petit peu du gros n'importe quoi, et on a... On prend toutes les recettes qui ont bien servi et qui ont été délayées avec parcimonie, les différents éléments qui étaient délayés avec parcimonie comme ça durant la première saison pour que ça prenne corps et pour que ça fasse une histoire intéressante du début jusqu'à la fin. Bon, avec bien entendu son petit lot d'histoires intrinsèques à chaque épisode, mais quand même il y avait une espèce de continuité comme ça. Et même si ça se passe dans le milieu du monde de la presse à scandale, donc qui par définition est too much, on va dire, même les éléments présentés, comme ils avaient un certain rapport avec la vie réelle, avec ce qu'on avait déjà connu ou su par rapport aux frasques des différents people, ils disaient bon, ok, ça reste acceptable et tout, mais dans la deuxième saison, ça est vraiment trop too much, tu vois, et ça en devient presque risible, on va dire. Il reste quand même néanmoins le bon jeu des comédiens, ça n'est pas de problème, hein, Courtney Cox, Ian Hart, là il en fait un petit peu moins et tout, c'est normal, parce que son personnage, mais au contraire, la première saison, il était complètement schizophrène, et donc ça a donné lieu à des scènes absolument délirantes et vraiment très très exceptionnelles, justement avec cet acteur qui est Ian Hart. Dans la deuxième saison, là, bon, bah, ok, il redevient normal, quoi. Alors bon, bah, on va essayer les auteurs essayent de jouer sur le comique de la situation. Je dirais normal après avoir été complètement schizophrène tout en continuant son boulot, hein, bien sûr, de photographe paparazzi de l'enfer qui tue. Bref, bon, sensation de gâcher quand même, quoi. C'est un peu dur, quoi, parce que bon, on aurait pu aller un petit peu plus loin avec cette série qui a été arrêtée, bon, au bout de 7 épisodes, puisque il y a eu cette grève des scénaristes. Et bon, bah, ok, la chaîne en a profité pour dire, bon, bah, les gars, vous êtes gentils, mais bon, ça suffit. Il y en a marre. Donc, si vous voulez, juger sur pièce, c'est jeudi prochain, sur Canal Jimmy, les épisodes 5, 6 et 7. Donc, les 3 derniers épisodes de la saison 2 de Dirt. Mais, le Full Frontal sera certainement gagné, à mon avis, au détriment de Burn Notice, mais enfin bon, sur W9, à mon avis, c'est peut-être rediffusé un autre jour de la semaine, par, eh bien, la diffusion, on l'attendait sur TF1, hein, je me suis dit, TF1 qui a acheté ça,
à tous les coups,
ils vont nous taper ça, un dimanche après-midi, genre à 14h, tu sais, l'horaire où t'es bien en train de faire la sieste, où t'es
c'est les Sarah Connor Chronicle,
Terminator, sur TMC, jeudi prochain, à 20h40.
Ok, c'est bon. J'ai choisi.
Voilà. T'es content d'avoir un décodeur TNT,
oui, merci Xavier.
Alors, Terminator, donc, la série commence à partir de la fin du deuxième. Le troisième Terminator au cinéma n'a jamais existé pour eux. Donc, ça leur permet quand même de développer un petit peu plus l'histoire, bah, surtout à propos du personnage, l'un des personnages principaux, à savoir Sarah Connor, la mère de John. Sarah Connor,
oui,
qui interprétait.
Dans le 3, elle est morte, hein.
Ouais, justement. Ça. Voilà. Ouais, mais bon, vu les paradoxes temporels qu'il y a déjà dans les Terminators, je veux dire, c'est, tu te dis, bon, un de plus, c'est pas grave. On s'en fout, de toute façon. On aime quand même, quoi. Il y a pas de problème. Alors, le père Sarah Connor est interprété par Lena Headey, qu'on a vu dans 300. Yeah, the third, yeah.
Ah, c'est la femme de Leonidas.
Yeah, yeah,
ah,
yeah.
Ah ouais, pas mal, ouais.
Lena Headey, donc.
C'est le petit bout de chocolat.
Bravo!
Alors,
pour moi.
Alors que John est interprété par Thomas Dekker, la série a bien marché aux États-Unis, ce qui fait que la chaîne Fox en a commandé une deuxième saison qui a déjà été tournée et qui va être diffusée, qui doit être diffusée en ce moment même aux États-Unis.
Je crois que ça passe sur la chaîne Fox. Je suis pas sûr.
Oui, mais bon, c'est Fox qui est quand même producteur,
oui, qui est producteur
du Terminator. Et pour permettre, oh, quel hasard de la programmation, eh bien, la fin de la série qui passe à la télé américaine, l'été prochain, enfin cet été, quoi, la sortie du nouveau Terminator.
Salvation.
Avec Christian Bale.
Dont on a beaucoup parlé cette semaine, d'ailleurs.
Ouais, je crois qu'il s'est pris la tête avec un éclairagiste. Le directeur à photo, pardon. Voilà, il a traité d'abruti d'un capable.
Voilà, qui a été enregistré par les ingé son. Ils ont fait plusieurs mix qui ont été disponibles sur YouTube.
En clair, les ingé son n'ont plus la peur maintenant d'être virés. Ça fait partie du plan promo, donc les acteurs peuvent se tenir à carreau.
Voilà, donc Terminator, la série, c'est jeudi prochain à partir de 20h40 sur TMC. Encore une série inédite qui malheureusement a été annulée par la chaîne ABC au bout de 13 épisodes parce que les gens ils comprenaient carrément plus rien. Bon, mais c'est des ricains aussi, alors faut leur pardonner. Des fois, ils ont du mal, mais c'est vrai que des fois, nous aussi, on a du mal quand même. Ça s'appelle Daybreak, c'est sur France 4, c'est diffusé sur France 4 mercredi prochain à partir de 20h35. Et c'est une série policière qui a comme base le fait qu'un inspecteur de police est accusé d'un meurtre et donc doit essayer d'enquêter pour prouver son innocence. Et pour cela, il va utiliser un moyen qu'on avait déjà vu dans un autre film vachement excellent et vachement célèbre de Harold Ramis, de Groundhog Day,
un jour sans fin.
Voilà. Et donc, il va revivre à chaque fois le même truc pour essayer de trouver ce qui fait justement le truc que c'est pas lui le coupable.
Ont réussi à faire combien d'épisodes avec ce concept ?
Alors là, 13 épisodes, donc 6 seulement ont été diffusés par ABC qui a dit oh là, c'est voilà, bon.
Ça veut dire qu'en général, déjà dès le troisième numéro, ça a dû chuter.
Alors, l'inspecteur est interprété par Taye Diggs, donc c'est un black, c'est pas n'importe qui, et on y retrouve... avec satisfaction Adam Baldwin, la sale gueule, le mec qui a la sale gueule et tout, lui pour les rôles de méchants il est excellent, et Mitch Pileggi, Skinner
dans X-Files,
et ce qui se comprend pas parce que bon les scénaristes n'ont rien à voir avec les gens qui embauchent les les acteurs, mais ça a été écrit par une partie de l'équipe de Chris Carter de l'époque de X-Files, donc on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a des gens qui n'ont pas tout pigé à ce concept. Donc,
ah mais non, mais on allait tout côté. Révéler, on allait mais révéler le nœud gordien au cinquième saison. Oh.
Voilà, donc Daybreak, une petite curiosité à regarder sur France 4, mercredi prochain à 20h35. Voilà en ce qui concerne les séries. Sinon, si vous, ouais, bon, là c'est commencé, c'est dommage parce que c'est quand même une histoire à suivre. Sinon, Damages sur Paris Première, hein, excellente série avec Glenn Close. Là, rien à dire, c'est du haut de gamme aussi. Des films maintenant, vite fait. Alors, d'abord, je voulais faire des films avec des couilles, mais bon, je me suis dit bon.
Moi aussi.
Plutôt avec des seins, alors.
Ouais, y en a quelques quand même, quoi. Alors, ça commence ce soir sur France 3. C'est assez bizarre hein, que France 3 nous passe un film de cinéma le samedi soir. Tu vois, à 23h.
Ah, curieux.
Mais bon.
Non, l'idée, c'est de reculer la case de l'oncle Doc qui passe de 23h30 à 1h30 du matin.
Ah, ben là, c'est clair, quoi. Parce que là, ça va être.
C'est dommage.
Après...
C'est dommage. C'est quand même des documentaires indépendants qui sont produits par les sections régionales de France 3 qui sont complètement zappés. Mais du coup, voilà. Bon, ben, France 3 va pouvoir passer un film, donc.
Le canardeur de Cimino. C'est son premier, d'ailleurs, hein, en 74, avec Clint et Jeff Bridges. Ainsi que Gary Buzet. Il y a également ce soir sur RTL9 à 20h35 Croix de Fer de Peckinpah avec Coburn,
encore
Shell, Mason, Warner, Senta Berger, du voulait des Nibars, t'en as. Ou d'autres Nibars aussi sur Ciné Cinéma Frisson ce soir à 20h45 Une nuit en enfer 3 de PJPC.
Et 3, d'accord.
Michael Parks avec Temuera Morrison. Ah là 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 là. Moi j'aime bien celui-là, tu vois, parce qu'il commence comme un western et ensuite il déhire dans le trip vampire, enfin bon, comme les deux
bah,
autres.
Ouais,
quoi.
Comme, ouais.
Ouais, Sébastien, mais Sébastien, ouais.
Au début, c'est vraiment pur western, okay. Tu vois, c'est vraiment le truc et tout. C'est vraiment, moi j'aime bien, quoi. Et puis bon, il y a un espèce d'humour sous-jacent dedans, là, qui me fait plaisir, quoi, quand même, quoi. Demain, sur Direct 8, encore du Peckinpah, portez-moi la tête d'Alfredo Garcia à 22h50, avec Warren Oates, Christopherson et Isela Vega. Lundi sur TMC à 20h40, Black Dog de Kevin Hooks avec Patrick Swayze, Meatloaf, Randy Travis,
ah oui,
et Charles Dutton, camionneur et tout. Énergie 12 lundi également à 20h35. Alors là c'est la spécialité, les deux, la soirée des deux avec Portée Disparue 2 de Lance Hall avec Chuck Norris et Sunteco, et à 22h35 Rambo 2, la mission avec Sly, avec Richard Crenna, Charles Napier et Steven Berkoff, qu'on a oublié, je me demande s'il est encore vivant celui-là, quoi. Ciné-cinéma frisson, lundi également à 20h45, Une nuit en enfer, bah ouais, bah pourquoi pas, on passe d'abord le 3, ensuite on passe le 1, hein, bah ouais.
Les paradoxes temporels.
Hein. Ouais, ouais. Le nuit en enfer, hein, de Rodriguez avec toute la bande, et lundi sur la chaîne Action à 20h40, Les arts martiaux de Shaolin, un classique.
Ah
hein,
oui, avec Jet Li.
Avec Jet Li, mais quand il était encore chez les Chinois, hein, qui n'était pas encore de l'autre côté.
Et qu'il avait 17 ans.
Voilà, ou pas, ou un petit peu, il date de 86, donc il avait oui, un peu plus de 20 ans, quoi, on va dire. Hein.
Okay, c'est
le film
c'est
de Liu Xiaolong, qui est bien, de hein, toute façon, quoi. Il y a pas, il y a
c'est
pas
où,
à
alors
péter, quoi. Alors c'est sur Action lundi prochain à 20h40. Orange Cinéchoc vous propose également Black Killer de Claudio Croccolo de 71 avec Klaus Kinski et Fred Robsheim. Ça c'est un western spaghetti de l'enfer qui tue de la mort. Et tu sais pourquoi c'est Django hein, dans Sukiyaki Western Django.
Non.
Bah t'as pas fait le rapprochement, mais bon, parce que c'est dans le Django original, en fait, t'as Franco Nero qui tire le cercueil comme ça et il y a la mitraillette dedans, quoi. Ah ouais.
Ah, encore, ah, ouais, oui,
ouais, c'est voilà, c'est pour ça.
Oh punaise.
Voilà. Mais Black Killer là, sur le Black Killer, il est bien. Hein. Klaus Kinski là, j'assure là, il vient foutre, il vient faire régner l'ordre dans un village où c'est le bordel et tout. Quoi. Et c'est Klaus Kinski qui déconne pas quoi. Mercredi, y a rien mardi de toute façon quoi. Mais y a Damages. Mercredi sur TPS Star, Boulevard de la Mort de Tarantino. Bah ouais, hein, bah, pourquoi pas quoi. 22h35 ou alors sur Syfy, une créature de rêve de John Hughes, ouais, oh, avec Anthony Michael Hall. Ah, là, celui-là, tu auras droit jusqu'à la fin de tes jours. Elon Mitchell Smith, c'est celui-là dont on te souvient pas des deux, quoi, tu vois. L'autre, on s'en souvient parce que maintenant il fait Dead Zone. Mais, l'autre, on s'en souvient plus. Et bien sûr, Kelly LeBrock, hein, qui allait devenir la petite copine de Steven Seagal, mon gars, ouais. Jeudi, sur TF1, 23h45, Jeu dangereux de Jay Andrews. Ça, c'est un téléfilm avec Treat Williams, qui est le substitut, faut pas s'oublier. Suzanne Walter, oui. Cliff de Jong et Michael Dudikoff, le meilleur acteur du monde.
Oh non,
c'est... non.
Dans ce registre, c'est... d'ailleurs, enfin, on est tombé cette semaine sur le crossover entre le film de Shanghai et Welcome Texas Ranger. Ah. On a eu peur. Hein.
Oh là là. Oh putain.
D'ailleurs, il y a Samo Hung qui demande à Chuck Norris, mais vous séparez jamais de votre chapeau, vous faites une cible facile. Et Chuck Norris lui répond, je vais devoir courir d'autant plus vite.
Vu comment il court dans la série, franchement, ouais, voilà. Voilà quoi.
Allez, vite fait, encore quelques films. Jeudi prochain, TF6 à 20h45, Passager 57 de Kevin Hooks, encore lui, à tes souhaits. Avec un bon Wesley Snipes, quoi. Là, maintenant, il fait plus que des dos pratiquement, quoi. Mais là, c'était quand même pas mal. Il y a également l'excellent Bruce Payne, Liz Hurley.
Je tiens à signaler que dans la saison de Doctor Who, là, qui vient de se terminer, dans le deuxième épisode, il y a une référence à ce film.
Ah bah.
Ça a beaucoup fait rire.
Normal, hein. Tom Sizemore.
Bah, au bout d'un moment, il s'adresse à l'un des anges, là, l'un des robots, et il dit, et il se présente en disant Passager 57.
Ah oui, je m'en souviens, ouais.
J'étais là, j'ai fait, non, mais c'est pas vrai.
Sinon, jeudi prochain sur Cinefix, un petit classique Scanner de Cronenberg.
Oh là là,
Michael Ironside. Ouais.
Avec McGowan aussi.
Et Patrick McGowan. On a également vendredi prochain sur Syfy à 20h45 Highlander Endgame.
Oh non.
Avec encore Bruce Payne.
Eh oui,
ouais.
Thématique.
Et sinon, Ciné Frisson a la bonne idée de vous faire une soirée Mortal Kombat avec le premier à 21h. Christophe Lambert, Lyndon Ashby, ou alors à 22h30 Mortal Kombat Destruction Finale, avec Robin Chou, qui est déjà dans le premier, quoi. James Remar, ah ouais, et Talisa Soto, qu'on se demande ce qu'elle fout là, mais bon, elle y est quand même, quoi.
Je me souviens, j'étais allé le voir au lycée, à cette époque, je pensais que c'était le meilleur film du monde.
Je suis désolé, je suis obligé de le poser.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Exactement, et je terminerai donc avec un film qui veut tout dire, de toute façon, c'est Le Grand Silence sur Ciné Club, Le Corbucci de 68 avec Jean-Louis Trintignant et encore Klaus Kinski. Non mais c'est un bon western,
très, très bon, oui.
C'est un bon western quoi.
Et Trintignant est assez étonnant d'ailleurs dedans.
Ah ouais, non mais bon.
Et qui se passe, et qui se passe sous la neige d'ailleurs, il me semble.
Ah, absolument.
Et oui. Et comme qu'on y revient.
Et ouais, toujours. Bon, Le Grand Silence est sur Ciné Club vendredi prochain à partir de 21h. Voilà. Et sinon, n'oubliez pas, jeudi prochain également, quoi, c'est la dernière apparition de Navarro. Ah ouais.
Oui, squeezez cette
semaine. Il est vraiment mort.
Eh ouais.
Il a été viré.
Place à la brigade maintenant, quoi, c'est bon. Place aux jeunes.
RIS, ça c'est la production originale française. Au secours. Mais que se passe-t-il aujourd'hui si vous êtes sur Toulouse et que vous n'avez rien à faire tout à l'heure? Manu Larsenet sera en présence des deux scénaristes Jean-Yves Ferry pour Le Retour à la Terre et Yvan Lidingre pour Chez Francisque. C'est à partir de 15h à la librairie Ombre Blanche. Ce soir, il y a une soirée TGS Night Show au Havana Café de 16h à 6h du matin. Entrée 10€ avec soirée Dance Dance Revolution Guitar Hero, un défilé de mode japonaise et plein d'autres choses. Si plutôt vous êtes plutôt animation, Sébastien, qu'est-ce qu'il y a ce soir?
La nuit du manga, 18h30, centre culturel Bellegarde, 6€ pour 4 films.
Voilà, d'ailleurs, moi je me. La petite qui est, il y a. Attends, j'ai oublié
le nom. Millennium Actress, mais... le formidable Millennium Actress, l'intendrissant. Qui est la petite peste,
le détonnant Spriggan
et le sublimissime Gitz Standalone Complex.
Ça vaut le coup. Et en attendant, Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je te prie?
Eh bien oui, nous avions Sébastien Langevin en invité spécial, il t'a enseigné la prononciation de Skyton. On a eu le débrief.
Cette fois-ci, voilà, on va pas revenir sur les débats sur le manga. Oh merde.
On a eu le débrief du festival d'Angoulême. On a passé en revue les ouvrages consacrés à la BD. Xavier s'est encore fait fouetter par Sébastien, pas sur le nom, mais sur une date cette fois. On a eu de l'hommage anglais à Bollywood, du western avec des baguettes, du sport a encore réussi à placer Shah Rukh Khan et Michael Dudikoff, le jeu de mots pourri de la semaine c'était Sébastien avec les chocolats Léonidas, et on n'a pas eu des films avec des couilles mais presque.
Nom d'un crottin de petit fauve. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pourrez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, voir les photos de l'émission, et jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Et en attendant, eh ben, vous écoutez FM1 sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM qui reprend l'antenne à partir de 17h et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode,
bah, de la BD, du film, et puis des séries télé.
Et Mino Manara.
Ah oui.
Et voilà. En interview, à propos donc de Borgia. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je vous laisse de suite avec du sport. Merci de votre écoute, merci de votre soutien et merci de supporter nos conneries. Ciao, bye.
Ciao.